Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen. Quel bel témoignage! Oh, quel bel témoignage de ce qui est dit de cet homme. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel. Amen. Comment va-vous vivre une vie chrétienne agréable au sein d'une génération perverse? Nous sommes pile poil dans ces temps et nous savons réellement qu'en tant qu'enfant de Dieu, parfois il n'est pas évident de témoigner de notre foi dans une société où les hommes et les femmes ne font pas cas de Dieu, où les hommes et les femmes rejettent Dieu et où c'est la satisfaction personnelle qui prime au-dessus de toute chose. On le sait bien, voilà, ces deux versets que nous avons lus résument ce qu'a été la vie d'Ézéchias et ce que doit être la vie du chrétien dans ce monde. Amen. Je suis émerveillé de voir ce roi vivre de la sorte. Je suis émerveillé de réaliser que malgré les temps difficiles dans lesquels il vivait, il y a eu une telle consécration à son Dieu. Et combien l'Église d'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, vivant dans une société perverse, dans un monde confus, combien nous avons besoin, frères et sœurs, d'avoir un témoignage à la louange, à la gloire de notre Dieu. J'aimerais vous parler, frères et sœurs, ce matin, de la vraie chrétienté. Alors, il est dit ceci d'Ézéchias, tout ce qu'il entreprit lui réussit. Ah, n'est-ce pas merveilleux ça? Ne voulez-vous pas que ce que vous entreprenez réussisse? Amen. Et voilà ce qu'on a lu ici, il est dit tout ce qu'il l'entreprise lui réussit. Et ça n'a rien d'étonnant, frères et sœurs. Ça n'a rien d'étonnant au regard de ce témoignage qu'il a laissé autour de lui. À quoi est due une telle réussite? Ah, vous savez, le monde qui entourait Ézéchias n'était pourtant pas favorable à une telle réussite devant Dieu. Et pour cause, quand on lit bien voilà les Écritures, on réalise qu'il avait pour père Akaz. Et il est dit d'Akaz, ce roi, un roi méchant. Vous savez, parfois, on a besoin parfois que ressembler à nos parents, et on a besoin parfois que nos enfants nous ressemblent. Mais là, je crois que Ézéchias n'a pas voulu ressembler à son père. Il n'a pas du tout voulu être à l'exemple, à l'image de son père. On dit souvent tel père, tel fils. Mais vous savez, dans les choses de Dieu, ça peut être vrai dans certains cas. Mais dans certains cas, nous avons besoin, même si nous aimons nos parents, même si nous aimons notre père ou notre mère, nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, au regard réellement de l'attitude qu'ils ont, nous avons besoin parfois d'avoir une autre perspective de la vie chrétienne. Je ne sais pas si cet homme avait honte même de l'agissement de son père. Parce qu'il est dit d'Akaz, au chapitre 28 du livre des Chroniques, il est dit ceci au verset 1 à 4. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Et ça commence mal pour lui. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David, son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrit des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Malheureusement, on ne peut pas dire amen à ça. Malheureusement, quel agissement. Et parfois, on se rend compte, oh voilà, qu'il peut y avoir des agissements malheureusement qui irritent le cœur de Dieu. Et ce que Akaz a fait a irrité. Il a tout fait pour irriter Dieu. Il a tout fait pour attirer la colère de Dieu, non seulement sur sa vie, mais également sur le peuple d'Israël. Parce qu'étant le roi, il se devait donner un exemple. Et combien nous avons besoin, frères et sœurs, de donner un exemple à la gloire de Dieu dans notre société. Parce que nous sommes vus des autres, nous sommes regardés, parce que Dieu a besoin que l'Église puisse rayonner dans un monde confus. Oh, nous nous trouvons parfois au milieu d'un monde méchant. Et souvent, il semble être très difficile d'afficher notre foi. De montrer réellement que nous sommes chrétiens, de vivre une véritable vie chrétienne. Il y a tant d'injustices dans notre société, tant de méchanceté, que certains croient que la vie chrétienne semble être impossible. Peut-être que vous avez eu à un certain moment de raisonner de la sorte. Au regard de tout ce qu'on traverse, au regard de tout ce qu'on vit, on se dit à quoi bon être chrétien ? À quoi bon? Certains peut-être peuvent dire, ce n'est même pas la peine de vivre une vie chrétienne. Et pourtant, cet homme Ézéchias est un exemple. Voyez-vous, j'aime vraiment plonger mes regards sur ceux qui nous ont précédés. Il est vrai que nous sommes appelés à être à l'image de Christ. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de celui qui a donné sa vie pour nous. Mais le Seigneur a mis sur notre route, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui se sont consacrés au Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui se sont retirés réellement de la méchanceté, qui ont dit non à toutes ces choses qui irritent le cœur de Dieu. Nous sommes dans une société où les hommes font tout pour irriter Dieu, pour attiser la colère de Dieu, tout en rejetant Dieu. Mais vous savez, nous pouvons, malgré tout, vivre notre vie de chrétien à la gloire de Dieu. Nous pouvons réellement. Vous savez ce que cet homme va faire? Il n'a pas cherché de compromis, mais il va être fidèle à son Dieu en prenant position. Et son témoignage, comme nous l'avons lu, il fit ce qui est droit et vrai devant l'Éternel. Dans le livre des Rois, nous pouvons lire ceci à propos d'Ézéchias. Dans 2 Rois au chapitre 18, il est bon de lire le livre des Rois et le livre des Chroniques en parallèle, parce que nous trouvons bien de choses similaires et complémentaires. Dans 2 Rois au chapitre 18, versets 1 à 5, il est dit ceci: « La troisième année d'Osée, fils de Déla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écoutez bien, c'est merveilleux ce passage. parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y a eu point de semblable à lui. Parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui et qui le précédèrent, il n'y a eu point de semblable à lui. Est-il possible dans notre société de nous démarquer de ceux qui font le mal? Vous savez, la réussite va de pair avec la fidélité avec Dieu. La réussite devant Dieu, je veux parler, je ne parle pas de la réussite aux yeux des hommes. La réussite devant Dieu va de pair avec notre fidélité à Dieu. Il est dit d'Ézéchias, il fit tout ce qui est droit aux yeux de Dieu en se détournant complètement de tout ce que son père avait fait. Alors qu'il pouvait, lui, suivre l'exemple de son père, nous voyons dans la parole de Dieu d'autres rois, voilà, ayant succédé à leur père, qui ont suivi exactement les mauvais agissements de leur père. Retenons, frères et sœurs, ce qui témoigne de la fidélité de d'Ézéchias. Il est dit dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 13, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle en parlant du Seigneur. Vous savez ce que le Seigneur attend de nous? Nous ne pouvons pas prendre ce verset et nous excuser de notre infidélité envers Dieu. Même si Paul parle de l'infidélité des hommes, nous devons réaliser que le Seigneur attend de nous réellement que nous soyons trouvés fidèles. Il est plus possible, frères et sœurs, de vivre fidèlement à Dieu, même au sein d'une génération infidèle au Seigneur. Retenons dans la parole, dans ce que nous avons lu, ce qui témoigne vraiment de cette fidélité. Il est dit, Ézéchias, il fit. Il s'est paré de trois choses que nous avons lues tout à l'heure. Il s'est paré de trois choses. Il est dit, il fit ce qui est bien. Il fit ce qui est droit et ce qui est vrai. Trois choses importantes à l'existence du chrétien. La bonté, la droiture et la vérité. Notre monde n'est pas caractérisé par ces choses. Il y a des hommes bien dans ce monde, certes. On ne peut pas tout rejeter. Il y a des hommes droits dans ce monde. Tout n'est pas mauvais dans notre société. Mais aux yeux de Dieu, on peut faire du bien aux hommes. Mais quel bien faisons-nous pour Dieu? On peut être droit devant les hommes. Mais devant Dieu, quel est notre degré de droiture? On peut être vrai d'une certaine manière devant les hommes. Mais aux yeux de Dieu, quel est réellement l'état de notre cœur? Il est dit ceci, il fit ce qui est bien, ce qui est droit et ce qui est vrai. Trois choses qui montrent quelle doit être réellement la parure du chrétien au sein de notre société. Trois choses qui sont la mesure de la qualité de vie spirituelle du croyant. La droiture, la bonté et la vérité. Vous savez, la plus grande qualité d'Ézéchias est qu'il a considéré, il considérait l'Éternel comme son unique espoir dans toutes les situations. Nous avons chanté tout à l'heure le nom de Jésus, espoir de toutes les nations. Et c'est vrai. Mais est-ce que cela est une réalité dans notre vie? Est-ce que devant les situations que je traverse, devant l'épreuve que je vis, est-ce que je considère réellement mon Seigneur et mon Dieu comme mon unique espoir? Parce qu'en considérant Dieu comme mon unique espoir, je ne regarde plus les circonstances de la même manière. Je croise le regard de Dieu. Et quand je croise le regard de Dieu, je suis, c'est la paix de Dieu qui inonde mon cœur. Et lui, il considérait Dieu comme son unique espoir. Et sa confiance inébranlable en son Dieu le distinguait de tous les rois, comme nous l'avons lu. De tous les rois qui l'ont précédé ou qui l'ont succédé, il n'y avait point de semblable à lui. Quel témoignage! Ne voulons-nous pas que le Seigneur témoigne de nous de la sorte? Dans une société où les regards sont centrés sur la personnalité humaine, dans une société où on rejette tout ce qui est Dieu, malgré tout, il y a des hommes qui trouvent le moyen, frères et sœurs, de se démarquer de ce monde, de ne pas vivre comme bon leur semble, de ne même pas imiter ceux qui les ont précédés, mais qui prennent position et se disent, oui, Dieu est mon Dieu, Dieu est mon Seigneur, c'est lui que je veux, pour lui que je veux vivre, il est mon seul espoir, il est ma forteresse. Ah, que c'est bon! Vous savez, l'un des commandements de Dieu à son peuple après la sortie d'Égypte est ceci. Dans Deutéronome au chapitre 6, verset 18, « Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. » C'est un commandement de Dieu à son peuple. Tu feras ce qui est bien, ce qui est droit et ce qui est bien. Dans Michée, il est dit ceci, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. On t'a fait connaître ce qui est bien. Dieu a mis devant ses enfants réellement, par sa fidélité, par sa puissance, par son amour envers son peuple, Dieu a montré aux enfants d'Israël ce qui était bien et ce qui était droit. Et il dira, tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Vous savez, il fit ce qui est bien. Dans un monde où le mal est appelé bien et le bien mal, ce qui distingue le véritable enfant de Dieu, c'est son amour pour Dieu et son amour pour ce que Dieu aime. Il nous est dit dans la parole de Dieu que Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Il a en horreur tout ce qui attriste son cœur. C'est à cause du péché que Dieu a donné Jésus pour nous. Et si Dieu a sacrifié son unique fils, il nous est dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, lui qui n'a point épargné son propre fils. Pourquoi? À cause de la méchanceté des hommes. À cause du péché qui a creusé ce fossé entre nous et Dieu, Dieu n'a pas épargné son Fils, celui qu'il aime de tout son cœur, et il l'a livré pour nous. Et au regard de cela, Dieu nous dit, fais le bien. Voilà le plus grand bien que Dieu a fait aux hommes en livrant Jésus, en sacrifiant son unique Fils pour nous. Et je me rends compte réellement que malheureusement, aujourd'hui, même parfois dans nos églises, on oublie de faire un retour en arrière pour considérer l'œuvre de Jésus à la croix pour nous. Parfois, nous prenons la grâce de Dieu en vain. On ne se rappelle pas que la grâce a coûté cher à notre Dieu. La grâce, c'est une faveur imméritée pour nous. Mais pour Dieu, ça lui a coûté son fils. Pour Dieu, ça lui a coûté quelque chose de très important. Croyez-vous que dans le cœur de Dieu, il y avait la paix lorsqu'il est dit qu'il va se séparer un tant soit peu de son fils? Croyez-vous? Imaginez-vous le cœur de Dieu à ce moment-là, au moment où Jésus devait endurer toute la souffrance de l'humanité, au moment où Jésus était sur la croix pour apaiser la colère de Dieu, il est dit, Jésus même lui dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Croyez-vous qu'il y avait la joie du Père en ce moment? Mais il fallait que cela soit réalisé. Il fallait réellement qu'il y ait ce laps de temps où Dieu se sépare de son Fils afin qu'il puisse recevoir sur lui la condamnation qui devait retomber sur nous. Dieu fait du bien aux hommes. Et encore aujourd'hui, Dieu fait du bien aux hommes. Mais quel bien faisons-nous à Dieu? Quelqu'un pourra me dire, oui, pasteur, je fais du bien aux hommes. Je fais du bien aux hommes, c'est bien. Même les hommes dans ce monde font du bien aux hommes. On connaît des hommes et des femmes dans notre société qui font du bien aux autres. On en connaît beaucoup de grands noms de personnes, voilà, qui étaient bienfaisantes. Mais malheureusement, en faisant du bien aux hommes, quel bien faisons-nous à Dieu? Parce que si je fais du bien aux hommes et que réellement je mets de côté tout ce qui est de Dieu, cela montre que je n'aime pas Dieu. Alors ce que Dieu attend de ses enfants, il dira ceci, tu feras ce qui est droit et ce qui est bien. Vous savez, pour Ézéchias, il a agi dans le sens opposé de son père. Vous savez, parfois, ce n'est pas évident. Nous sommes dans une société et malheureusement, même au sein des églises, on se permet de faire tout. On excuse tout. On se dit, si lui l'a fait, peut-être c'est bien. Et on ne prend même pas le temps de se positionner par rapport à la parole de Dieu et de savoir réellement ce que Dieu pense. Parce que ce n'est pas ce que je pense qui doit dicter ma conduite, mais c'est la pensée de Dieu qui doit absolument dicter ma conduite si je veux vivre heureux. Il dira à son peuple, voilà, tu marches, tu feras ce qui est bien afin d'être heureux. Alors qu'Akaz faisait tout pour provoquer la colère de Dieu, Ézéchias a vécu de manière à réjouir le cœur de Dieu. Il est dit dans la parole, comme nous l'avons lu, Akaz a fermé les portes de la maison de l'Éternel. Et il a même déshonoré la maison de Dieu. Et son fils Ézéchias, voyant, c'est vrai, la mauvaise manière d'agir de son père, quand il est venu, il va restaurer la maison. Dans 2 Chroniques au chapitre 29, verset 3, il est dit ceci. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. La première année, on ne perd même pas le temps. On ne perd pas le temps. Alors que avec son père, le peuple était en porte-à-faux avec Dieu, avec son père, il y a eu la colère de Dieu, la tristesse même au sein du peuple. Quand il est arrivé, la première année, il va ouvrir les portes de la maison. Vous savez, pour l'enfant de Dieu, faire le bien devant les hommes, devant Dieu, ce n'est qu'une pure réponse à la grâce de Dieu. Dieu a prouvé son amour envers nous en envoyant Jésus qui a détruit le péché par sa chair pour nous donner la vraie vie. Alors, nous avons besoin de nous rappeler. Pour que nous puissions faire le bien devant Dieu, il faudrait à chaque instant que nous ne perdions pas de vue l'œuvre de Jésus à la croix. Parce qu'une fois que je détourne mes regards de la croix, je ne vais plus me souvenir de ce que Dieu a fait et je prendrai position pour les hommes et je ferai ce que les hommes veulent et non pas ce que Dieu veut. Mais à chaque fois que mes regards sont toujours fixés sur la croix, réellement, cela me donne une ligne de conduite, cela me donne réellement de marcher dans les pas de celui qui a livré sa vie. Et à cause de cela, je peux, par la grâce de Dieu, faire le bien devant Dieu. Aimer ce que Dieu aime, aimer ce que Dieu aime et aimer Dieu. Il fit ce qui est droit. Puisqu'il avait la connaissance du bien et du mal, il n'a pas essayé de couvrir les fautes de son père. Ah, là aussi, parfois, on est champion. À cause de notre proximité, parfois, avec les hommes, à cause du sentiment que nous avons les uns pour les autres, on a tendance à couvrir les fautes, les erreurs des uns des autres. Il est vrai que nous devons être compatissants. Mais vous savez, si Jésus fermait les yeux sur le péché, nous ne serions pas là. Alors, Ézéchias n'a pas fermé les yeux sur les erreurs de son père, mais il va dénoncer ces choses. Il va enterrer les autels de son père qui étaient en abomination avec Dieu. Ésaïe dira ceci au chapitre 26, verset 27. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Le chemin du juste est la droiture. Si le chemin du juste est la droiture, et si nous sommes trouvés justes aux yeux de Dieu à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, alors la droiture doit être également notre parure. Ça doit être notre parure. On se pare de ça. Parce que la droiture, vous savez, ce n'est pas une parure qui donne de l'apparence. La droiture, c'est une parure qui témoigne de celui qui nous a justifiés alors que nous étions condamnables. Alors, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vraiment nous poser cette question, que chacun se pose cette question. Sommes-nous prêts devant Dieu à enterrer ce qui est mal à ses yeux? Sommes-nous prêts? Pour Ézéchias, c'était son père, mais malgré tout, il n'a pas excusé son père. Il n'a pas excusé son père. Il a enterré tout ce que son père faisait qui n'était pas bon devant Dieu. Non seulement il fit ce qui est bien et droit, viendra la partie aussi essentielle. Il fit ce qui est vrai. Il fit ce qui est vrai. Vous savez, malgré les difficultés de la situation, Ézéchias s'est fortement attaché à l'Éternel en marchant fidèlement tout en obéissant à ses commandements. Dans 2 Rois chapitre 18, verset 6, nous lisons ceci. 2 Rois chapitre 18. Et ce qui doit être réellement le focus de tout enfant de Dieu. Il est dit ceci au verset 6. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Nous avons aujourd'hui ce que Dieu nous a donné comme trésor. Il marcha fidèlement tout en obéissant. Vous savez, connaissant les causes et faits des agissements des hommes devant Dieu, il y avait un seul but dans son cœur, Ézéchias, c'est retourner à la vérité qui libère. Dans Jean au chapitre 8, verset 32, Jésus lui-même dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parfois, on a, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on a parfois peur. Vous savez, on ne doit jamais avoir peur de la vérité et de dire la vérité. Mais parfois, parce qu'on ne veut pas recevoir la moquerie des uns et des autres dans la société, on ne veut pas que les hommes nous tournent le dos, on essaye parfois, voilà. Vous comprenez? Il y a la vérité, mais on essaie de contourner. C'est vrai, mais tu sais. Il n'y a pas de « je sais ». Ce que Dieu dit, soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. C'est oui ou c'est non. Je ne peux pas prendre la parole de Dieu devant les hommes alors que j'ai le regard de Dieu sur ma vie et devant quelqu'un, je ne veux pas être un obstacle de chute pour quelqu'un. Alors que Dieu me donne la parole, il faudrait que je dise ce que Dieu a dit. Je ne dois pas me permettre de dire ce que Dieu n'a pas dit. Alors, il va noter, lui, la désolation de ses pères. Dans 2 Chroniques 29, verset 6, il dira ceci. Il est bon, frères et sœurs, parfois, que nous nous attardions quand nous lisons la parole de Dieu. Il dira ceci au verset 6. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel. Et lui ont tourné le dos, ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, La colère de Dieu a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. Voyez-vous ce que ça peut produire, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de ceux qui m'entourent, quand je marche en contresens de ce que Dieu veut. Mais voulant la liberté par la vérité, regardez ce qu'Ézéchias va dire. J'ai donc l'intention de faire alliance avec Dieu. Ouf. Ouf. J'ai donc l'intention de faire alliance avec Dieu, le Dieu d'Israël. Écoutez bien. Pour que son ardente colère se détourne de nous. J'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel pour que son ardente colère se détourne. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Nous avons en cet homme un modèle de vie que nous pouvons assimiler à nous étant dans cette société. Même si par l'œuvre de la croix, la colère de Dieu s'est apaisée, nous réalisons que les hommes continuent toujours d'être désobéissants à ce que Dieu a fait. Il est dit ceci, Ézéchias, il a cherché. Cherchez Dieu. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai. Devant l'Éternel, son Dieu, il agit de tout son cœur. Il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Parfois, vous savez, on peut chercher Dieu pour autre chose, pour son propre confort. On peut chercher Dieu pour sa propre satisfaction. Il est dit d'Ézéchias, en recherchant Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Et c'est un point que l'Église de Dieu néglige aujourd'hui. Parce que Dieu était véritablement son Dieu. Il a cherché Dieu pour une raison, pour que réellement, le nom de Dieu soit glorifié au travers de sa maison. Et l'Église, vous savez, parfois on peut chercher Dieu et on le connaît mal. Pourquoi? Parfois parce qu'on le voit uniquement comme un Dieu qui guérit et quand on s'approche de lui, on attend à ce qu'il nous guérisse, c'est bien. Mais on n'oublie pas que Dieu veut se glorifier au travers de l'Église. Il est dit, Paul dira ceci dans son épître aux Romains, même la création attend la révélation des fils de Dieu. On doit réaliser réellement que l'Église a son importance. On doit réaliser réellement que ce que nous devons chercher, c'est la gloire de Dieu. Non pas uniquement sur ma vie, mais dans l'Église de Christ. Parce que lorsque Jésus reviendra, je ne serai pas le seul à être enlevé. Il est dit, il revient pour chercher son Église. C'est pour cela qu'il s'attache réellement à ce qu'elle soit trouvée sans tache ni ride, l'Église de Dieu. Il recherchait Dieu pour le service. Sommes-nous au service de la maison de Dieu? Sommes-nous vraiment au service de la maison de Dieu?
Ah oui, pasteur, je sers Dieu. Je sers Dieu à ta manière, quand tu le veux, comme tu veux, pour le service de la maison de Dieu. Je termine avec ceci. Vous savez, on ne doit jamais oublier que nous n'aurons jamais la pleine connaissance de Dieu, sinon que lorsque nous serons transformés dans la gloire de Dieu. Mais c'est en recherchant Dieu que nous le connaîtrons de mieux en mieux. Alors qu'Ézéchias avait fait toutes ces choses, il aurait pu se satisfaire de ce qu'il a fait. Mais en plus de ce qu'il a fait, il nous a dit, il va rechercher Dieu. Il va rechercher Dieu. Et il va faire toutes ces choses de tout cœur. Ce qui m'amène à terminer avec ceci. Le cœur du chrétien ne doit jamais être partagé en ce qui concerne les choses de Dieu. Parce que quand nous faisons même les choses de Dieu pour Dieu avec un cœur partagé, nous ne serons jamais heureux. Mais quand on fait les choses avec un cœur dévoué, c'est ce que réellement David, alors qu'il était à la fin de sa vie et qu'il donnait ses dernières recommandations à son fils Salomon, il dira ceci, « Et toi, mon fils, connais le Dieu de ton père. Sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours, si tu le cherches. » Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais que l'on puisse retenir une chose. Nous pouvons vivre dans ce monde pervers, dans cette société perverse. Nous pouvons vivre une vie chrétienne à la gloire de Dieu, tout en marchant convenablement, en mettant en pratique ce que Dieu nous a laissé. Il est dit d'Ézéchias, il va observer les commandements. Et il va chercher Dieu pour le service de la maison et pour les lois et pour les commandements. C'est en cela que lorsqu'il a entrepris toute chose, tout lui a réussi. Alors si nous voulons encore aujourd'hui, dans notre société, le salut des hommes, je crois que c'est ce à quoi le Seigneur nous a placés dans ce monde. Non pas notre propre satisfaction. C'est vrai que Dieu, il nous donne des bénédictions. Mais ce n'est pas l'objectif que nous devons viser. L'objectif à viser, c'est le salut des hommes. Et pour que Dieu se serve de nous, pour sauver un plus grand nombre, nous devons vivre comme Ézéchias, qui n'a pas cherché aucun compromis, mais qui a rejeté réellement les mauvais agissements de son père en ayant les yeux fixés sur son Dieu. Il est dit, il fit ce qui est bien, il fit ce qui est droit et il fit ce qui est vrai. La bonté, la droiture et la vérité. Voilà ce que le chrétien doit se parer. Ce qui doit être notre garniture. Voilà ce que les hommes doivent voir en nous. Pas simplement la cravate ou le bel costume que je peux porter. Ou peut-être les colliers ou je ne sais quoi. Ce n'est pas ça la parure. La vraie parure du chrétien, c'est la bonté, c'est la vérité et c'est la droiture. Voilà ce qui plaît au Dieu. Excusez-moi d'avoir pris un peu de temps, frères et sœurs. Mais c'était vraiment bien que nous nous rappelions ces choses. Parce que nous vivons pile poil dans une société où, tout comme Ézéchias, mais lui, il s'est démarqué. Il n'a pas voulu faire des choses pour irriter le cœur de Dieu, mais il a agi pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que nous puissions nous rappeler ces choses. Sommes-nous à l'exemple d'Ézéchias? Ah oui, pasteur, je marche à l'image de Christ. Oui. Mais Paul dira, soyez mes imitateurs aussi. Donc il y a des hommes à imiter. Parce que ces hommes ont livré leur vie au Seigneur. Et nous pouvons aussi marcher à la lumière de ceux et celles qui nous ont précédés dans la parole pour mener une vie heureuse et épanouie et une vie qui est conforme réellement à ce que Dieu attend des hommes sur la terre. À lui soit toute la gloire. Amen. C'est avec humilité, Seigneur, que nous nous tenons devant toi. Te bénissant encore pour ta fidélité et ton amour, Seigneur. Tu es celui qui a frayé le chemin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu nous as ouvert le chemin de la vérité, Seigneur. Tu nous as ouvert le chemin de la bonté. Tu nous as ouvert le chemin de la droiture, Seigneur, parce que c'est ce que tu étais quand tu étais sur la terre. Alors, Éternel, dans le nom de Jésus, alors que nous sommes dans ce monde dans lequel tu veux sauver un plus grand nombre, Seigneur, donne-nous d'être à ton image, Seigneur. Donne-nous de vivre réellement ces choses. Éternel, dans le nom de Jésus, pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour toutes sortes de paroles que nous avons qui ne sont pas à ta gloire. Éternel, que nous prenions cette décision. Ô Seigneur, doter de nos vies, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, qui ne sont pas à ta gloire, et de nous parer, Éternel, mon Dieu, mon roi, de ta droiture, Seigneur, de nous parer, Seigneur, de ta bonté, de nous parer, Seigneur, de la vérité qui est source de vie et de bonheur, mon Dieu, mon roi. Père, je te prie pour ton Église, Seigneur, que nous prenions conscience de notre vie, Seigneur, mon Dieu, avec toi, que nous prenions conscience, Seigneur, de la nécessité de te rechercher, non pas pour notre confort, Seigneur, mais pour le bien, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ton Église, parce que c'est elle, Seigneur, mon Dieu, que tu as placée sur la terre pour montrer aux hommes qui tu es en réalité. Alors, Éternel, dans cette ville de Gap, permets-nous, Seigneur, d'être le sel et la lumière, Seigneur, de vivre comme tu le veux, Seigneur, mon Dieu, et d'être des témoins efficaces. Oh, et Seigneur, mon Dieu, réjouis-toi. Bénis les frères et sœurs, Seigneur. Renouvelle les forces de tout un chacun et fais-nous du bien pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen.